Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Bonjour. Aujourd'hui dans Univox, c'est Radio Campus Besançon qui donne la parole à une cause, celle des personnes LGBTQI+. En effet, chaque jour en France, une personne est agressée physiquement à cause de son orientation sexuelle, selon le rapport 2018 de SOS Homophobie. Pour la troisième année consécutive, l'association dénonce une augmentation des agressions, des insultes, des discriminations contre la communauté LGBTQI+. Et le nombre d'agressions physiques déclarées a doublé par rapport à 2017. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au cas d'une ville, Besançon. Mais cette discrimination touche bien sûr le monde entier. Dans l'émission d'aujourd'hui, des témoignages d'étudiants, une rencontre avec Maëlle, étudiant trans, déjà agressée 3 fois en moins d'un an, et une visite au refuge, association d'aide aux jeunes rejetés par leur famille en raison de leur appartenance sexuelle.
Univox. On a les mêmes devoirs que les autres, du coup je vois pas pourquoi on n'aurait pas les mêmes droits.
Par rapport aux années 70-80, même si les violences se sont adoucies, le système n'a pas changé. Et il y a des droits qui nous sont encore refusés. Le système normatif est toujours là qui nous oppresse, que ce soit psychologiquement ou même au niveau des études, au niveau du travail, tout ça.
Pourquoi tu veux changer de prénom? Il est si beau. On ne veut plus entendre ces mots. Stop transphobie.
Les personnes LGBTQI sont normales. La LGBTQI-phobie n'est pas normale.
Je ne peux pas parler de toi au masculin parce que tu ressembles pas à un garçon. Stop transphobie.
Ça se passe à Besançon. En réponse à des multiples agressions, l'Association solidaire de défense des étudiants, ASDE, organise le 22 octobre un rassemblement. Nous avons tendu le micro à des étudiants.
C'était en troisième. Il y avait 2 garçons de ma classe qui me harcelaient tous les jours et j'en parlais pas, évidemment. C'est comme tout, hein, on n'ose pas en parler et on a peur des représailles, en fait. Un jour, ça a craqué et j'étais en pleurs pendant plus d'une semaine et... J'en ai parlé à mes parents et on a saisi le tribunal directement. J'ai pas du tout été aidé par l'administration du collège, ce qui m'a profondément déçu. Mais bon, le tribunal a avancé, les agressions se sont arrêtées, le harcèlement s'est arrêté et j'ai pu continuer ma vie correctement.
J'étais au collège en 4e et je suis sortie avec une fille, c'était mon premier amour. Et ben, il se trouve que c'est un collège de campagne à Lille-sur-le-Doubs et le proviseur a voulu nous renvoyer pour ce simple motif. Donc on a été obligé de faire notre coming out. C'est très mal passé du côté de ses parents à elle. Elle a été obligée d'aller vivre chez sa mère à Paris. S'en sont suivis du harcèlement scolaire, des attouchements. Et au lycée, je suis sortie avec une fille qui a abusé de moi sexuellement de façon très violente. Et quand j'ai voulu aller porter plainte, on a refusé d'enregistrer ma plainte parce que, je cite, c'est une femme. Elle ne peut pas faire des choses comme ça. Et deuxième citation de la même policière, qui est une femme, je tiens à le préciser, en même temps qu'elle a l'idée de coucher avec des filles. Je ne trouve pas ça normal qu'on n'ait pas non plus droit à la justice sous prétexte qu'on n'est pas hétéro ou cisgenre.
Vu que je suis une personne transgenre, en fait, donc j'allais dans le vestiaire des hommes, parce que pour moi, je suis un homme, et du coup, ben, voilà, les gens n'acceptent pas le physique ou quoi que ce soit, en fait, d'une personne. Et du coup, vu que c'est l'incompréhension totale, ils réagissent par la violence ou par les mots, et puis voilà, quoi.
Bah, avec ma copine, ouais, dans plusieurs villes, hein, dans le sud... On est passé à côté de nous, on nous a dit qu'on était sales. Il y a eu plusieurs fois où on a croisé des mères avec des enfants et on se tenait juste la main et ça cache les yeux de leurs enfants. Ça, c'est un petit peu difficile, quoi. Surtout que ma copine, elle est animatrice avec les enfants, je veux dire. Enfin, c'est des trucs qui blessent, enfin, c'est plus des petits trucs. Et puis toujours le discours aussi qu'on entend. Ouais, mais je suis pas homophobe, mais quand même, Dieu a créé l'homme et la femme. Voilà, c'est tous ces trucs-là, c'est insupportable.
We stayed up night. We had the guide. Think we walk through the night.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Le rapport 2018 de l'association SOS Homophobie fait état pour la troisième année consécutive d'une augmentation des insultes, agressions et discriminations contre la communauté LGBT. Par rapport à 2017, c'est une hausse de 15% des signalements d'agressions physiques qui sont reportés. Et une victime sur deux n'ose pas se confier à leurs proches. Ne pas oser en parler, c'est l'inverse de ce qu'a fait Maëlle, transgenre et étudiant en biologie.
Je me suis dit, tu te tais, tu fermes les yeux, tu attends que ça passe, et c'est passé, et ils m'ont lâché, et là j'ai juste couru jusqu'à ma voiture, je me suis enfermé, j'ai verrouillé les portières, j'ai soufflé un coup, j'ai pas réalisé tout de suite, je suis rentré chez moi, et c'est seulement une fois que j'étais chez moi que je me suis rendu compte que ça s'était passé encore.
Le 23 octobre, Maëlle est agressée sur le campus pour la troisième fois depuis la rentrée 2018, sur un parking du campus de Besançon. Il nous raconte ses agressions et les conséquences.
C'était en sortie de TP, donc il faisait nuit, il était un peu plus de 18h. On a longuement discuté avec ma binôme de TP par rapport au compte-rendu, la fac, etc. Et en fait, depuis le début de l'année, j'évite de me garer sur ce parking-là où je me suis fait agresser deux fois l'année dernière. Et là, j'étais dans le rush, j'ai pas eu le choix, je me suis garé là. Et ben, la preuve, c'est que j'aurais pas dû. C'est qu'une fois que ma binôme m'a quitté, j'ai marché jusqu'à ma voiture et sur le chemin, quatre personnes sont arrivées par derrière, deux m'ont prise les bras pendant qu'un troisième enchaînait les coups de poing sur le visage, le quatrième ne faisait rien et j'ai rien fait pour me défendre. Vu que ma simple existence les rend assez colériques au point de m'agresser de nuit par derrière ou de m'assommer comme l'année dernière et de continuer de tabasser alors que je suis inconscient au sol, je me suis dit tu te tais, tu fermes les yeux, tu attends que ça passe. Et le problème, c'est que la transidentité, on en entend parler nulle part. C'est visible nulle part, ni dans les médias, ni dans les films, ni dans les séries, ou alors si c'est présenté, c'est pas du tout représentatif de la réalité. Je pense par exemple à la série Océan où il y en a beaucoup qui l'ont regardé, ça a donné, il y a eu beaucoup de médiatisation par rapport à ça, sauf qu'il a un parcours totalement atypique, privilégié parce que il vient d'une famille blanche, il a de l'argent, alors qu'en général quand on est transgenre, on est isolé, soit de nos amis, soit de notre famille qui n'acceptent pas notre transition, du coup on n'a pas les moyens on est précaire, on n'a pas de revenus. On se retrouve à devoir arrêter nos études et à prendre des petits travails à côté. Et ça reste assez compliqué. Et du coup, le fait que là, ce soit une agression transphobe, les gens déjà ne savent pas forcément ce que ça veut dire, ne connaissent pas forcément l'existence de la transidentité, et ça peut heurter. Et je peux comprendre que ce soit si singulier qu'on ne puisse pas vraiment comprendre, ou alors qu'on se pose des questions, mais c'est pas parce que on ne comprend pas quelque chose que on a besoin de taper sur les gens. Il y a pas de réaction de violence à avoir là-dedans. Je veux dire, on rejoint le même problème qu'il y a 30 ans avec l'homophobie, où les gays se faisaient tabasser, ils se faisaient insulter dans la rue. Et c'était quasiment normal. Maintenant, c'est normal pour un trans ou une personne LGBT de se faire tabasser. Et moi, j'en ai marre de voir passer sur les réseaux sociaux tous les jours des personnes qui disent « Ah ben, ce soir c'est notre tour, on s'est fait tabasser ». Non, il n'y a pas de « c'est notre tour », ça fait pas partie du packaging LGBT de se faire tabasser. On n'a pas à subir autant de violence simplement parce qu'on est singulier et qu'on n'est pas cisgenre, hétérosexuel. Faut sortir de systèmes binaires qui existent depuis des années et dans lequel on est bloqué. Et c'est ça le problème.
Aujourd'hui, toi, après les violences dont tu as été victime, tu as déposé plainte ?
Oui, j'ai déposé plainte une première fois l'année dernière, mais deux mois après les faits, parce que je suis resté dans le déni pendant deux mois, où je voulais juste qu'on me foute la paix et disparaître, et j'ai reçu une nouvelle menace, et là, une enseignante de la fac qui était au courant de tout et qui m'incitait à en parler à l'administration, et je refusais parce que je voulais juste qu'on me foute la paix, m'a dit « Maëlle, c'est pas possible, faut qu'on en parle là, ça fait deux mois que ça dure, on vous menace encore directement ». Et du coup, là, j'ai accepté d'en parler à l'université, j'ai déposé plainte qui s'est terminée sur rien du tout en fait, parce que j'ai pas pu identifier les agresseurs, et j'ai déposé plainte pour cette agression pendant les vacances.
Parce que l'année dernière, pour reprendre cette histoire qui commence déjà il y a un an, qu'est-ce qui se passe ? Dans quelles circonstances est-ce que les deux agressions de l'année dernière se sont déroulées ?
C'était toujours sur la même partie, sur le même parking, toujours de soir, sauf que cette fois c'était très très tôt le matin. À ce moment-là j'étais assidu, donc c'était extrêmement facile. N'importe qui inscrit à la fac peut savoir l'emploi du temps, l'heure, le lieu où n'importe qui sera. Donc c'est extrêmement facile de pouvoir pister les gens puisqu'on a accès aux emplois du temps d'absolument tout le monde. Et donc la première réaction c'était un mercredi matin, il était 7h30, il faisait nuit, on était en septembre, j'allais en cours et des gens sont arrivés par derrière, m'ont assommé et ont continué de me tabasser alors que j'étais inconscient au sol. Et je me souviens juste d'une voix féminine qui disait, en plus en me mégenrant, je pense qu'elle en a eu assez, et là on m'a foutu la paix. Et du coup je suis pas allé en cours, je suis remonté dans ma voiture et je suis allé voir un de mes médecins et je lui ai raconté ce qui s'était passé.
Et justement donc il y a un an, est-ce que la fac a fait quelque chose pour t'aider aussi à ce moment-là?
Sachant que j'ai mis 2 mois avant d'accepter d'en parler, donc pendant 2 mois il s'est absolument rien passé. Mais par contre, à partir du moment où il y avait cette responsable du semestre qui insistait, qui me disait mais Maëlle, faut en parler, vous pouvez pas rester tout seul comme ça, et moi je refusais. Et puis il y a eu cette énième menace j'avais participé à un dossier du journal de l'Express et on avait fait la cover, on était 6 à avoir accepté d'illustrer le dossier, et j'avais retrouvé du coup la cover de l'Express arrachée sur mon pare-brise avec le visage d'un des participants barré, sachant qu'il s'était fait tabasser 3 jours avant, et le mien entouré. Et je sortais de partiel et j'avais texté ma prof, je lui ai dit je suis désolé, je fais une crise d'angoisse, je suis sorti, et elle m'appelle, elle me dit venez, on discute, on reste calme. Et je reviens avec la une dans les mains, je lui montre, elle me dit mais Maëlle, on peut pas, faut faire quelque chose, on peut pas s'arrêter là. Et du coup c'est elle qui m'a vraiment vraiment incité, et c'est grâce à elle que j'ai accepté, qui a continué de me pousser à ce que j'en parle. Et à partir du moment où j'en ai parlé, la directrice adjointe a pris le temps de me recevoir, le directeur également, on a tous réfléchi tous les quatre à quoi mettre en place à la fac pour que je me sente plus serein, pour que je me sente plus en sécurité. On a parlé de faire des espèces d'escorte entre ma voiture et les cours, sauf que j'ai refusé parce que du coup ça amplifie un petit peu le truc. Si moi tout seul avec 5 personnes autour de moi, ça fait, c'est un peu l'effet inverse,
garde du corps,
oui voilà. Et en plus je trouvais ça un peu gênant. Et du coup voilà, la fac a quand même essayé de, enfin le directeur et la directrice adjointe ont essayé de chercher des solutions pour que je revienne en cours, pour que je puisse rattraper les cours ou les prendre à distance, ou que je sois en permanence avec quelqu'un, enfin bref, que je me sente plus serein à la fac et au moins protégé. On a cherché à mettre des choses en place, on n'a pas vraiment réussi à en mettre, mais n'empêche que ils m'ont soutenu, ils m'ont cru, parce qu'ils auraient pu se dire non, c'est pas vrai, c'est pas possible, ça peut pas se passer, on est dans l'enseignement supérieur, on est quand même en deuxième année de licence pour toi, il y a des masters, c'est un peu inconcevable de se dire que en 2018-2019, dans l'enseignement supérieur, il y a encore des gens qui ne tolère pas, même si j'aime pas parler de tolérance au LGBT, parce qu'on va tolérer du lactose, mais on va pas tolérer des êtres humains, le mot ne convient pas. Et
quel impact ces agressions, elles ont sur ta scolarité malgré tout? Parce que même en recevant du soutien, difficile d'aller en cours comme si de rien n'était.
Ouais, du coup au deuxième semestre, je suis quasiment pas allé en cours, j'ai fait acte de présence au partiel, et je me disais semestre 4, nouveau départ, tout va bien se passer, je vais tout déchirer, je vais passer L3, à Jacques L2, sauf que j'ai eu des problèmes de santé qui m'ont, du coup j'ai été absent pendant plusieurs semaines, et donc bref, au final on s'est terminé sur un redoublement et du coup une année de perdu.
Univox.
I know this. I've played in this dirt, powdered glass over everything, spray paint swastikas and cocks, coke hands bleached by sun. Sir, why here in the filthy flighted bramble here? There's canic blue manned river sun, a mile just down the line. First class toots, more coffee, more apologies. Pale faced kids in rubber gloves, dressed as cops outside. I try to find your name. You didn't make the news. You're just the man whose blues stopped his heart beneath our shoes.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
En France, l'homophobie est punie de 3 ans de prison et de 45 000 euros d'amende. Il est possible de porter plainte pour discrimination jusqu'à 6 ans maximum après les faits. Dans certaines universités, des solutions commencent à être mises en place. Par exemple, l'université François Rabelais de Tours s'engage pour ses étudiants transgenres. Elle autorise depuis 2017 l'utilisation du prénom d'usage et a créé des toilettes neutres. Il y a aussi une volonté du ministère de l'Enseignement supérieur. En mars 2019, lors de la Journée internationale de visibilité des personnes transgenres, un plan de lutte contre les discriminations envers les personnes LGBT a été mis en place, incluant une série de mesures pour favoriser leur inclusion dans la vie étudiante. Premièrement, une campagne de lutte contre les discriminations envers les personnes LGBT+. Deuxièmement, l'inscription sous le prénom d'usage est possible depuis cette rentrée, au moment de s'inscrire à l'université. C'est-à-dire que le nom choisi par l'étudiant sera visible sur les cartes étudiantes, cartes de bibliothèque, mais aussi sur les listes d'appels et les résultats d'examen. Troisièmement, la signature d'une charte pour s'assurer que les pratiques de l'institution ne sont pas discriminantes pour les personnes LGBT+. Quatrièmement, la formation des futurs enseignants et l'accompagnement des établissements. La ministre de l'Enseignement supérieur a également annoncé que son ministère allait soutenir financièrement plusieurs associations telles que SOS Homophobie et le Centre LGBT de Paris. Elle va également demander au CROUS de mettre à disposition des chambres dans les cités universitaires, partout en France, au profit de l'association Le Refuge. D'ailleurs, Thibaut Pointe, délégué régional en Bourgogne-Franche-Comté de l'association Le Refuge, une association nationale qui vient en aide aux jeunes LGBT, qui font face à des difficultés familiales ou sociales,
a accepté de répondre à nos questions.
Du coup, les jeunes qui arrivent au refuge, ben, pour la grande majorité, voire même pour la totalité, passent par ce qu'on appelle notre ligne d'urgence. On a un téléphone portable, hein. Ça doit être 06 31 59 69 50, si je ne dis pas de bêtises. C'est un numéro qui est joignable 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Les jeunes qui appellent à ce numéro-là ont évidemment une personne qui va leur répondre tout de suite. Le refuge s'engage dans les 48 heures à organiser un entretien préliminaire, on appelle ça. Donc c'est un travailleur social qui va rappeler le jeune pour faire un point un peu plus précis de la situation et des besoins du jeune, est-ce qu'il relève de l'action du refuge ou pas. Et si, s'il s'avère que, selon le travailleur social, le jeune relève de l'action du refuge, dans ce cas-là, sa candidature, entre guillemets, est envoyée aux différentes délégations du refuge. Hein, il y en a une vingtaine en France, avec des appartements un peu partout. Et là, du coup, on va accueillir le jeune dans un des appartements, si toutefois il y a une place, parce que malheureusement, on a plus de demandes que de places. Le refuge au niveau national, c'est 12 salariés. Hein. Donc, sur 60 millions de personnes en France, 65, c'est dérisoire, en fait. On est à peu près 400 bénévoles sur le territoire en France, répartis dans une vingtaine de délégations, et on a à peu près 110 places d'hébergement, je crois, en ce moment, plus un projet de centre d'accueil pour jeunes migrants LGBT qui est en train d'ouvrir sur Angers.
Par rapport aux étudiants qui arrivent au refuge, par exemple, s'ils sont étudiants à Besançon, mais du coup ils sont obligés de partir, je sais pas, à Toulouse, comment ça se passe pour les études? Est-ce qu'il y a une continuité quand même?
Dans la grande majorité des cas, les jeunes qu'on accueille sont déjà en rupture scolaire, en fait. C'est des jeunes qui en arrivent à contacter le refuge une fois qu'ils ont épuisé toutes les solutions qui sont possibles. Donc, ils ont été hébergés chez un pote, puis chez l'autre, puis machin. Et puis, bah, entre-temps, évidemment, il y a eu l'éjection, enfin, en tout cas, le rejet des parents. Souvent, très vite arrive le décrochage scolaire parce que c'est des périodes qui sont très compliquées à gérer émotionnellement. Donc la plupart des jeunes qu'on accueille sont déjà en rupture avec le milieu scolaire ou professionnel, donc c'est rarement un problème, mais ça arrive effectivement. Nous là, en ce moment, on accueille un jeune à Besançon, qui est d'un village à côté de Besançon, et qui, par chance, est arrivé chez nous à l'association nous rencontrer à une période où on avait une place de disponible. Donc là, on a pu du coup l'accueillir à Besançon, puisque lui était encore, pour le coup, inséré dans ses études à Besançon, et que c'était important qui puisse continuer ses études sur Besançon, et là ça a été possible de le faire. Donc
il y a de nombreuses fois où les institutions sont mises en cause, institutions par l'école, l'université, la justice, le commissariat, où on n'est pas forcément bien reçu. Il y a cette problématique de sensibiliser les différents acteurs et les différentes institutions à ces questions. Il y a encore beaucoup de boulot, à ce qu'on entend.
Il y a énormément de boulot, et encore on peut rajouter à ça la santé, et notamment pour les personnes en situation de transidentité, quand elles entament des démarches au niveau des hôpitaux pour faire des transitions, des opérations et tout ça, elles sont souvent heurtées à des comportements qui sont juste inacceptable, en fait, de gens qui travaillent pour l'État, en fait, hein, quelque part, et qui du coup ont des comportements qui sont complètement inacceptables. Et je passe après les dépassements d'honoraires et tout ça, qui sont une autre forme d'abus, mais qui, bon, voilà,
mais ne serait-ce que dans l'accès aux soins,
c'est très compliqué. Ouais. C'est très 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 compliqué, et malheureusement c'est pas la première fois que j'entends des jeunes qui vont porter plainte parce qu'ils sont agressés en raison de leur orientation sexuelle, et quand ils arrivent au commissariat, bah, ils s'en prennent une deuxième charge, quoi.
Et quelles sont les actions mises en place par l'association Le Refuge pour se faire connaître un peu auprès des jeunes, pour savoir qu'ils peuvent se réfugier, justement?
On intervient en milieu scolaire, donc principalement dans des lycées. Jusqu'à présent, on a vu à peu près 1000 lycéens sur la région. Donc là, on a, je pense, 400 à 500 lycéens à voir là, dans les semaines à venir. Donc oui, et ça c'est une action qui est aussi très importante du refuge. Alors c'est pas l'axe numéro un du refuge, qui est de venir en aide aux jeunes homos, mais c'est de faire de la prévention au lycée, et il y en a grandement besoin.
Pour rappel, le refuge a une ligne d'urgence 24 heures sur 24 au 06 31 59 69 50. Si vous vous estimez victime de discrimination, n'hésitez pas à contacter le défenseur des droits sur www.défenseurdesdroits.fr ou auprès des associations comme SOS Homophobie, avec sa ligne d'écoute et d'assistance anonyme au 01 48 06 42 41.
Univox.
La discrimination LGBT-phobe dans Univox, proposée cette semaine par Alexis et Cécile pour Radio Campus Besançon. À la semaine prochaine.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.